père était doué pour les traits d'esprit et les jeux de mots. Un jour, comme ça, à table, il me dit « Je préfère le vin d'ici que l'au-delà. » Ah ah ! Moi aussi, j'aime les belles tournures de phrases et j'essaye d'utiliser un vocabulaire riche et des expressions imagées. Un prédicateur a dit « On peut faire fier de sa race, fier de sa face, mais aussi fier de la grâce. » Certains croyants s'enorgueillissent du fait d'être sauvés, car ils pensent être les objets d'une attention particulière du Tout-Puissant. Ce n'est pas faux, mais certainement pas une raison d'être fier. Comme je le dis quelquefois, on ne peut entrer dans le royaume des cieux qu'à plein ventre et par la petite porte derrière. Si Paul peut dire de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Je suis sûr qu'aucun d'entre nous n'a la moindre raison de gonfler la poitrine. Nous sommes tellement tordus que l'orgueil peut pointer sa tête hideuse à tout instant. Les gens religieux, en particulier, trouvent naturel de se glorifier de leur humilité. J'ai plusieurs noms au bout de la langue, mais au lieu de les citer, je continue de lire dans le second chapitre du livre de Sophonie. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste, efforcez-vous d'être humbles, peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Le prophète joue ici sur la signification de son nom qui veut dire « celui que le Seigneur cache ». Sophonie s'adresse plus spécialement aux Israélites pieux du royaume, ceux qui sont humbles dans le sens qu'ils se sentent dépendants de la grâce de Dieu. Mais cette exhortation est tout aussi valable pour les non-juifs qui cherchent à plaire à l'Éternel. Sophonie veut encourager toutes les personnes bien disposées à l'égard de Dieu à se tourner davantage vers lui. Dans la pratique, cela signifie accomplir méticuleusement ce qui est juste devant Dieu et envers son prochain. Et deuxièmement, c'est adopter une attitude de soumission envers Dieu. Alors peut-être que le jour du jugement, l'Éternel mettra les personnes pieuses du pays à l'abri, en les cachant de manière à ce qu'elles ne soient pas massacrées avec des impies. Dans le psaume 27, le psalmiste écrit « Il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il m'a bien abrité. » Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Il est bien vrai que lors de l'invasion de Juda et de la prise de Jérusalem par les Chaldéens, des multitudes sont sommairement exécutées. Cependant, beaucoup de petites gens sont épargnés, laissés tranquilles, et les envahisseurs leur partagent même les terres avec l'ordre de les faire fructifier afin que le pays ne devienne pas stérile et inculte. D'autres sont emmenés captifs à Babylone, et on peut dire sans risque de se tromper que le voyage n'a pas dû être de tout repos. Mais une fois installés en Babylonie, ces Israélites peuvent mener une existence relativement tranquille et même se lancer dans les affaires au point où leur qualité de vie devient un peu trop confortable. En effet, après que le roi perse Cyrus autorise les Juifs de retourner au pays et de reconstruire Jérusalem, ils ne se bousculent pas au portillon. Zorobabel, prince de Juda et chef politique, ne peut réunir que 50 000 colons pour le suivre et refaire de Juda une nation. Il faut dire aussi que les perspectives ne sont guère brillantes. Après un voyage éreintant, ils sont accueillis par un champ de ruines et une population païenne antagoniste. Jusqu'à présent, Sophonie a surtout annoncé le jugement des Israélites de Juda parce qu'ils pratiquent l'idolâtrie et sont indifférents à l'Éternel. Si la plupart d'entre eux ne l'ont pas totalement abandonné, leur dévotion est partagée entre les divinités des nations qui les entourent et le Dieu de leurs ancêtres, qui se trouvent ainsi réduits au rang de petits dieux qu'on place sur une étagère et de bons dieux à qui on fait appel en cas de besoin. Au final, on peut dire que les Israélites sont des jouisseurs prêts à rendre un culte à n'importe quelle idole qui leur accordera la prospérité. Le peuple élu ne connaît donc plus l'Éternel et l'a réduit à un talisman, une sorte de patte de lapin qui fait office de porte-bonheur. C'est aussi de cette façon que le considère l'immense majorité de nos contemporains, y compris des chrétiens évangéliques. Sophonie condamne plusieurs catégories du peuple, les grands qui abusent de leur pouvoir et les riches commerçants qui ne croient pas que l'Éternel intervient dans les affaires des hommes. Mais le jugement de Dieu fondra sur tous les coupables, où qu'ils soient. Pour illustrer le châtiment à venir, le prophète utilise le jour de l'Éternel, grand jour terrible. Quand Dieu déchaînera sa colère, le langage de Sophonie est particulièrement imagé et explicite à faire dresser les cheveux sur la tête. Il parle d'un festin offert par l'Éternel à une nation ennemie qui viendra se repaître de Juna. Il utilise l'image des ténèbres qui enserreront le royaume de Juda et produiront l'horreur, l'épouvante, la détresse et la destruction. Cependant, les humbles qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'Éternel, qui lui font confiance et vivent selon la justice, échapperont au châtiment. Nous arrivons maintenant à une nouvelle section du livre de Sophonie, où il est question du jugement des nations, un passage qui nous rappelle que le Dieu du ciel demande des comptes à tous les peuples de la terre. L'Éternel n'est pas une divinité locale, mais le Créateur de tout ce qui existe, le Dieu unique et vrai. Comme nous habitons chez lui, et que nous sommes sur sa propriété, il a son mot à dire sur la façon dont nous menons notre vie. Or, il a établi des règles qui constituent la partie morale de la loi de Moïse et qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. Par contre, les lois d'ordre religieux, cérémoniels, politiques ou nationales ont été données spécifiquement au royaume théocratique d'Israël. Mais toutes celles qui ont une dimension morale, comme les 10 commandements, à l'exception du sabbat, concernent chaque être humain et Dieu entend bien qu'on les respecte. Dans toutes les cultures existe la notion du bien et du mal, parce qu'elle est innée au cœur de l'homme, même si elle peut varier considérablement d'un peuple à un autre. Ainsi, chez les cannibales et chasseurs de têtes du Pacifique Sud, manger un ennemi fait partie des us et coutumes de la tribu. On peut s'élever contre cette pratique, mais avant de les traiter de sauvages invétérés, il faut savoir que ces mêmes indigènes ont un haut sens de l'honnêteté. N'importe qui peut laisser ses biens n'importe où, même des objets de valeur comme des armes ou des outils, et il peut être sûr qu'il les retrouvera, car aucun indigène n'y aura touché. En France, on ne mange pas les gens qui nous déplaisent, mais si par inadvertance vous oubliez votre sacoche quelque part, 5 minutes plus tard, elle aura disparu, et si vous allez déposer plainte au commissariat, on vous dira « Mais, mon bon monsieur, vous plaisantez, faites le deuil de votre argent et fouillez les buissons des environs et peut-être retrouvez-vous votre sacoche et vos papiers. » Qui sont les sauvages? Maintenant, Sophonie va annoncer le jugement de Dieu aux Philistins qui habitent au sud-ouest de Juda, aux Moabites et aux Ammonites qui sont à l'est, aux Éthiopiens au sud et enfin aux Assyriens au nord. On trouve une prophétie similaire chez les prophètes Ézéchiel et Amos. Je continue de lire le texte. Gaza sera abandonné. Ascalon sera dévasté. Les habitants d'Asdod seront chassés au loin à l'heure du midi. Écron sera déraciné. Midi est l'heure de la sieste, car c'est le moment le plus chaud de la journée et le moins propice à une attaque. L'heure de midi signifie donc soudainement et de manière inattendue. Le pays des Philistins fait partie de la terre promise par l'Éternel à son peuple. C'est une plaine ondulée, située entre 15 et 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle s'étend sur 55 kilomètres de long et fait de 16 à 26 de large. Les quatre villes situées sont parmi les cinq principales des Philistins. Le prophète Amos les mentionne également. Si Gath, la cinquième grande ville, ne figure pas dans la liste, c'est probablement parce qu'elle se trouve alors sous la domination de Juda. Ces villes sont citées en allant du sud au nord. Gaza est la ville la plus au sud de ce territoire côtier. Puis vient Absalom, Asdod est au nord et Écron plus au nord et à l'est. En hébreu, le sort de ces villes est décrit sous forme de jeu de mots. Par une assonance à la fois entre Gaza est abandonné et entre Écron est déraciné. C'est comme si nous disions quelque chose comme Gaza sera gaspillé, Écron sera écrasé. Tous les habitants de Gaza furent déportés par les Babyloniens et la ville entièrement abandonnée. Mais Alexandre le Grand la repeupla. Gaza tombe ensuite dans le giron de l'Égypte avant d'être entièrement rasée. Par les Grecs, Antiochus III le Grand. Le souverain le plus important de la dynastie séleucide de Syrie. Souvent reconstruite et rasée, la Gaza actuelle, qui a donné son nom à la bande de Gaza, se trouve sur une colline composée de l'accumulation des ruines des villes précédentes. De l'antique ville d'Ascalon, qui fut reconstruite, entre autres, par Richard Cœur de Lion, il ne reste que quelques ruines occupées par des buissons épineux et habitées par des lézards et des hiboux, un lieu sinistre qui sert de repère aux chacals. Écron est un petit village qui fait partie du territoire d'Israël, à proximité de l'antique ville d'Asdod. Les Israéliens ont construit un port, une raffinerie de pétrole, ainsi que de nombreuses habitations. Je continue le texte. Malheur aux habitants de la côte de la mer, au peuple venu de la Crète, car contre vous se fait entendre la parole de l'Éternel. Malheur à Canaan, pays des Philistins, je te dévasterai et je te viderai de tous tes habitants. Le mot Canaan signifie basse terre. À l'origine, c'est le nom de la Phénicie et du pays des Philistins. Quant au mot Philistin, en langue éthiopienne, il signifie émigrant. Et Philistine a donné le mot Palestine. Les Philistins, qui sont alors établis sur la côte méditerranéenne du pays de Canaan, sont originaires de l'île de Crète, aussi appelée Captor dans les Écritures. Suite à l'Europe de Sophonie, c'est le pharaon Necho II qui est le premier à dévaster la Philistie. Je continue le texte. La région de la mer servira de pacage, de grottes pour les bergers et de parcs à moutons. Ce district va échoir aux survivants du peuple de Juda. Ils y mèneront paître leurs troupeaux. Le soir, ils se reposeront dans les maisons à Ascalon, car l'Éternel leur Dieu interviendra pour eux et changera leur sort. Ici, la ville de Ascalon sert à désigner l'ensemble du pays des Philistins. Il y aura si peu d'habitants qui sera simplement annexé par Israël. Après le passage des Chaldéens, les Israélites survivants, très pauvres, sont autorisés à rester au pays et subsistent alors de l'agriculture et de l'élevage. Il en sera de même de ceux qui reviendront de l'exil babylonien. Ce qui fut autrefois le pays des Philistins le servira de pâturage où ils feront paître leurs troupeaux. Littéralement, le texte dit l'Éternel, leur Dieu, les visitera et les ramènera de captivité. Dans les Écritures, Dieu visitera a souvent un sens négatif du jugement. Mais ici, cette expression veut évidemment dire bénira. Il est intéressant de remarquer que Sophonie prophétise non seulement la déportation des habitants de Juda, mais aussi leur retour d'exil. Depuis Moïse, la promesse constamment réitérée par les prophètes est que Dieu sauvera toujours un petit reste de son peuple et qu'il les rétablira dans son pays. Cependant, l'accomplissement final et définitif de cette prophétie est de nature spirituelle et aura lieu lorsque le Messie établira son royaume millénaire. Je continue le texte. J'ai entendu les propos insultants des Moabites et les outrages des Ammonites qui insultaient mon peuple et qui s'agrandissaient aux dépens de son territoire. Les Moabites et les Ammonites sont deux peuples issus du neveu d'Abraham, Lot, avec ses deux filles. Comme leurs fiancés ont péri dans Sodome et qu'elles désirent une descendance, deux soirs de suite elles enivrent leur père afin que chacune d'elles puisse avoir des relations sexuelles avec lui. Cette curieuse histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Ces deux peuples ont toujours eu une attitude belliqueuse envers Israël, dont ils sont apparemment jaloux. Les Moabites en particulier sont d'un orgueil extrême, et les Ammonites ne valent guère mieux, ce qui est souligné dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Quand les Hébreux sont arrivés aux portes de la terre promise, Balak, roi de Moab, engage et achète le prophète Balaam pour qu'il maudisse Israël. Plus tard, pendant la période sordide des juges, les deux nations essayent constamment de subjuguer les Israélites. Ici, Dieu reproche à ces deux peuples leurs propos insultants et leur attitude expansionniste. Dès que les circonstances leur sont favorables, les Moabites et les Ammonites s'attaquent à Israël afin d'étendre leur territoire. On peut toujours se dire qu'à cette lointaine époque, c'est de bonne guerre. Mais pas vraiment, parce que c'est l'Éternel qui a fixé à son peuple ses frontières, ce qui veut dire que les violer et renier une partie de la terre promise, c'est comme empiéter sur les plateformes du Tout-Puissant. Une très mauvaise idée, car un crime de lèse-majesté. Je continue le texte. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, Moab sera comme Sodome, les Ammonites seront comme Gomorre. Leur pays deviendra un lieu couvert d'orties, une mine de sel et une terre dévastée à perpétuité. Le reste de mon peuple les pillera, oui, ce qui restera de ma nation en prendra possession. L'expression « aussi vrai que je vis » exprime la certitude. Dieu attache son existence et son essence même à la vérité de sa déclaration. En se proclamant le Seigneur des armées célestes et le Dieu d'Israël, l'Éternel dit que, d'une part, il est capable de mettre ses menaces à exécution, et d'autre part, il est prêt à punir le mal qui a été fait à son peuple. La sévérité du jugement qui frappera les Moabites et les Ammonites est semblable à celle qui a effacé à tout jamais l'existence de Sodome et Gomorre, une tragédie qui eut lieu au temps de leur ancêtre Lot, le neveu d'Abraham. L'un des châtiments de Moab correspond à l'une de ses fautes. Comme il a voulu s'étendre au détriment d'Israël, il perdra son pays. Amman, capitale de la Jordanie, est un mot dérivé du nom de l'ancien territoire de Ammon. Par contre, aucune de ces anciennes villes ni celle de Moab a été reconstruite. Ce sont des amas de ruines qui témoignent de la véracité de la prophétie de Sophonie. Parce qu'ils sont à proximité de la mer morte, cet espace morne regorge de sel, ce qui les rend impropres à l'agriculture. comme les prophètes Abdias, Michée et Zacharie. Sophonie annonce que le territoire d'Israël s'élargira au-delà des frontières du territoire promis par l'Éternel à Abraham, car il inclura alors les pays d'Ammon et de Moab, mais cela n'aura lieu que lorsque le Messie établira son règne de 1000 ans. Je continue. Cela leur adviendra pour prix de leur orgueil, car ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et se sont agrandis à ses dépens. Avec eux, l'Éternel se montrera terrible, car il anéantit tous les dieux de la terre et toutes les nations jusqu'aux plus lointaines. Elles se prosterneront devant lui, chacune sur son territoire. Sophonie répète les raisons du jugement des Ammonites et des Moabites. Puis le texte hébreu dit littéralement que l'Éternel amaigrira tous les faux dieux. Les nations païennes ayant disparu, il n'y a plus personne pour offrir un culte aux idoles. Kemosh, la divinité des Moabites, et Moloch, celle des Ammonites, restent donc sur leur faim. Alors, en la personne de Jésus-Christ le Messie, les hommes apprendront à vénérer l'Éternel, et on ne l'adorera pas seulement à Jérusalem, mais dans le monde entier.